1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Jeudi 26 octobre 1553 à 11h, la sentence du petit conseil de la bonne ville de Genève tombe et elle est irrévocable.
Toi, Michel Servet, condamnons à devoir être lié et mené au lieu de Champelle et là, devoir être attaché à un pilotis et brûlé vif avec ton livre jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres.
Quel crime a donc commis ce médecin espagnol ? La vérité, c'est qu'il a réussi à se mettre tout le monde à dos. L'Europe entière, les catholiques aussi bien que les protestants, le considèrent comme un dangereux hérétique. Pourquoi ? Parce que selon lui, la Bible ne parlerait pas d'un Dieu unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. À ses yeux, la Trinité ne serait qu'une invention purement humaine qu'il faut abandonner si l'on veut réconcilier juifs, chrétiens et musulmans. Le problème, c'est que d'un seul coup, il remet en cause les deux piliers de la foi des chrétiens, le salut par Jésus, Fils de Dieu, et l'autorité incontestable de la Bible.
Condamné par la Sainte Inquisition catholique, le protestantisme naissant ne peut pas faire moins. Question de crédibilité. On ne peut quand même pas laisser dire que les protestants ne sont pas de vrais chrétiens.
Mais qu'est-ce qui a pris à Servet d'aller en plus provoquer Jean Calvin ? Le grand réformateur qui règne en maître incontesté dans la très protestante Genève. En lui envoyant son nouveau livre, La restitution du christianisme, a-t-il la prétention de corriger l'institution de la religion chrétienne, l'œuvre maîtresse du plus grand théologien protestant ? Dénoncé, Servet fuit l'Inquisition. Mais pourquoi va-t-il se réfugier justement à Genève ? A-t-il seulement conscience du danger qui le guette ? Peut-être se croit-il capable de convaincre Calvin de ses erreurs ? À peine arrivé, il va même assister à son prêche. Pauvre fou ! Il est immédiatement reconnu, arrêté, emprisonné, interrogé, jugé, condamné et conduit sur le bûcher.
On croit l'affaire réglée ? Loin de là ! À peine les cendres de ce malheureux étaient-elles refroidies, dira Théodore de Bèze, grand ami de Calvin, que l'on commença d'agiter la question s'il est permis de faire mourir les hérétiques. En fait, cette mise à mort scandalise Sébastien Castellion, un ancien élève de Calvin. Ces deux-là se sont connus à Strasbourg et Calvin l'a appelé à Genève pour diriger le collège de Rives. C'est vraiment un super professeur aux méthodes pédagogiques révolutionnaires pour amener les élèves à la liberté de penser, mais Calvin n'a jamais accepté de le reconnaître en tant que pasteur. Vexé, Castellion a rompu avec son ancien mentor. Et depuis Bâle, où il enseigne le grec, il mène l'attaque.
Qui donc a nommé Calvin juge souverain avec le pouvoir exclusif de prononcer la peine de mort ?
L'attaque est frontale, violente. La bataille s'engage et Calvin commence par se justifier.
On me cherche chicane ? La justice n'a fait que son travail, c'est à elle qu'il faut se plaindre. Pour ma part, je crois nécessaire de défendre la vraie foi.
Mais Calvin, n'est-ce pas toi-même qui disais « Ce n'est pas agir en chrétien que de poursuivre par le fer et le feu ceux que l'Église a chassés et de leur refuser les droits de l'humanité. Est-ce que nous ne sommes pas là tes propres mots ? »
Voudrais-tu laisser la liberté à chacun de dire dans l'Église ce qui lui passe par la tête ?
Peut-être pas, mais si Servet t'avait combattu par les armes, tu aurais eu raison d'en appeler au magistrat pour te défendre. Mais il te combattait par des écrits. Pourquoi, contre des écrits, as-tu fait donner le fer et les flammes ? Il fallait le combattre avec des arguments et des écrits.
Et toi, Castellion, tu prends les choses trop à la légère. On voit bien que tu ne portes aucune responsabilité. C'est facile de donner des leçons, bien cachées derrière ton bureau.
Le conflit s'envenime. D'un côté, Calvin sent le poids de la responsabilité de l'avenir de l'Église peser sur ses épaules. La survie du protestantisme est entre ses mains et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. L'Église catholique n'attend qu'un faux pas pour reprendre Genève. De l'autre, Castiglione, l'humaniste, se sent libre. Libre de toute responsabilité. Libre de poser des questions gênantes. Libre de chercher, de questionner, d'imaginer de nouvelles réponses. Libre d'être en avance sur son temps.
Accorde-moi la liberté de ma foi, comme je vous laisse la vôtre, réclame Castiglione. Si quelqu'un se sépare de vous, ne prononcez pas sur le champ qu'il se sépare de la vérité. Ne le traitez pas aussitôt de blasphémateur. Quel que soit celui de nous qui se trompe, pourquoi ne pas nous aimer ?
Il est bien question d'amour. Moi, je parlerais plutôt de cruauté. Pour épargner un loup, tu veux mettre en danger toutes les brebis ? Tu voudrais être pasteur et tu n'es pas capable de voir qu'il faut prendre la défense des plus fragiles ?
Mais qui voudrait devenir chrétien quand il voit que ceux qui confessent le nom du Christ sont meurtris par des chrétiens sans aucune miséricorde et traités plus cruellement que des brigands ou des meurtriers ?
Le voilà qui veut nous faire la leçon maintenant. Et en même temps, il n'hésite pas à laisser libre cours à toutes les hérésies.
Hérésie, hérésie, mais tu n'as que ce mot-là à la bouche. Mais au fond, qu'est-ce que c'est une hérésie ? Aurais-tu la bonne définition, peut-être ? Moi, je constate que vous traitez d'hérétiques tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous.
Nous y voilà. Monsieur Castiglione avoue enfin son ignorance. Il ne sait même pas ce qu'est une hérésie.
Une dernière fois, Castiglione essaie de trouver les arguments pour convaincre.
Mais ne vois-tu pas que c'est une grande folie de penser qu'on peut tuer la pensée d'un homme à coups de hallebarde ? Tu vas disant qu'on ne doit pas forcer les consciences, et tu forces celles d'autrui. Ne forçons personne. La contrainte n'a jamais rendu personne meilleure. Ceux qui veulent imposer aux gens une croyance agissent aussi stupidement que celui qui voudrait obliger un malade à prendre de la nourriture en lui enfonçant dans la bouche au moyen d'un bâton.
Je ne force personne. Il n'y a que Dieu qui puisse te convaincre. Mais est-ce seulement possible si tu n'écoutes que toi ? Tu te crois plus intelligent que les autres, quel orgueil !
Cette fois, la rupture est définitive. Quel que soit l'objectif recherché, pour Castiglione, c'est une question de principe.
Quand les Genevois ont tué Servet, ils n'ont pas défendu une doctrine. Ils ont tué un homme. Voilà la vérité. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine. C'est tuer un homme.
Ça me donne à penser. Qui a raison, qui a tort ? Sans des convictions claires, parfois, ce n'est pas facile à dire. Chacun avance ses arguments, chacun défend son point de vue, on écoute à droite, on écoute à gauche, et on a bien du mal à faire le bon choix. On sent sa conscience comme tiraillée, indécise, ballottée. Et puis, il y a parfois des situations tellement embrouillées qu'on aimerait ne pas être obligé de prendre position. Il y a des jours comme ça où on se dit que ce serait tellement plus simple si on se laissait vivre sans trop se poser de questions, sans engagement, sans responsabilité, sans colère, juste indifférent au monde qui passe. Et puis on se réveille comme après un cauchemar, à abandonner ses rêves, suivre l'avis de Monsieur Tout-le-Monde, mais jamais, tout, mais pas ça. Il faut continuer à penser, à questionner, à chercher, à tâtonner à la recherche du bonheur, en quête de vérité. À regarder vers l'horizon, je rêve d'une vie bonne, belle et réussie. Une vie avec des projets, une vie avec et pour les autres qui essayent de construire un monde plus juste, plus beau, plus doux. Mais être heureux ne me suffit pas. Je rêve aussi de pouvoir rester fidèle à mes principes et à mes convictions. Je veux essayer de suivre une vie droite, juste et surtout vraie. Rester soi-même, intègre et sincère. Je crois que nous vivons au croisement des deux, entre construction du bonheur et quête de vérité. Et là, le danger est grand de céder à la facilité d'une pensée binaire. Se persuader qu'il y a une bonne réponse et que le monde est séparé entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, le vrai et le faux, la lumière et les ténèbres, la vérité et l'hérésie. C'est une illusion toxique. Il faut mettre de la nuance. Est-ce qu'il y a une école pour apprendre à discerner?
Vous pouvez retrouver le contenu de cette émission et de toutes celles de cette série consacrée à la liberté de conscience dans le spectacle Son et Lumière de Luther à Luther King qui sera donné dans le cadre du Musée du désert à Mialet dans le Gard les 28, 29 et 30 juillet 2017.